Divergence internationale, divergence oligarchique. En tout état de cause, cette menace de divergence internationale liée à une possession graduelle des pays riches par la Chine ou par les fonds pétroliers paraît beaucoup moins crédible et dangereuse qu'une divergence de type oligarchique, c'est-à-dire un processus où les pays riches seraient possédés par leurs propres milliardaires ou plus généralement où l'ensemble des pays, y compris bien sûr la Chine et les pays pétroliers, seraient de plus en plus massivement détenus par les milliardaires et autres multimillionnaires de la planète. Comme nous l'avons vu plus haut, cette tendance est déjà bien engagée. Avec l'abaissement programmé du taux de croissance mondiale et la concurrence toujours plus vive entre pays pour attirer les capitaux, tout laisse à penser que l'inégalité R supérieure à G sera forte dans le siècle qui s'ouvre. Si l'on ajoute à cela l'inégalité du rendement du capital suivant la taille du capital initial, que la complexité croissante des marchés financiers globalisés peut avoir tendance à renforcer, on voit que tous les ingrédients sont réunis pour que la part détenue par le centile et le millime supérieur de la hiérarchie mondiale des patrimoines dans le capital de la planète atteigne des niveaux inconnus. Il est certes difficile de dire à quel rythme se fera cette divergence, mais en tout état de cause, le risque d'une divergence oligarchique paraît beaucoup plus fort que celui d'une divergence internationale. Il faut en particulier insister sur le fait que la peur d'une détention par la Chine relève à l'heure actuelle du fantasme pur et simple. Les pays riches sont en réalité beaucoup plus riches que ce qu'ils imaginent parfois. La totalité des patrimoines immobiliers et financiers, nets de toutes les dettes, détenus par les ménages européens, représente au début des années 2010 quelque 70 milliards d'euros. Par comparaison, la totalité des actifs détenus dans les différents fonds souverains chinois et dans les réserves de la Banque de Chine représente environ 3 000 milliards d'euros, c'est-à-dire plus de 20 fois moins. Les pays riches ne sont pas prêts d'être possédés par les pays pauvres. Il faudrait d'abord que ces derniers s'enrichissent, ce qui va prendre encore des décennies. D'où vient alors cette peur, ce sentiment de dépossession en partie irrationnelle? Cela s'explique sans doute par une tendance universelle à chercher ailleurs des responsables pour les difficultés domestiques. Par exemple, on s'imagine parfois en France que les riches acheteurs étrangers sont responsables de la flambée de l'immobilier parisien. Or, si l'on examine minutieusement l'évolution des transactions en fonction de l'identité des acheteurs et du type d'appartement, on constate que la progression du nombre d'acheteurs étrangers ou résidents à l'étranger permet d'expliquer à peine 3% de la hausse des prix. Autrement dit, les très hauts niveaux de capitalisation immobilière observés actuellement s'expliquent à 97% par le fait qu'il y a suffisamment d'acheteurs français et résidents en France assez prospères pour soutenir de tels cours. Il me semble que ce sentiment de dépossession s'explique avant tout par le fait que les patrimoines sont très fortement concentrés au sein des pays riches. Pour une bonne part de la population, le capital est une abstraction. Et que le processus de sécession politique des patrimoines les plus importants a déjà très largement commencé. Pour la plupart des habitants des pays riches, notamment en Europe et en France, cette idée selon laquelle les ménages européens détiennent 20 fois plus de capital que les réserves chinoises semble relativement abstraite, dans la mesure où il s'agit de patrimoine privé et non de fonds souverains immédiatement mobilisables, par exemple pour aider la Grèce, comme l'a aimablement proposé la Chine ces dernières années. Ces patrimoines privés européens sont pourtant une réalité, et si les gouvernements de l'Union européenne en décidaient ainsi, il serait tout à fait possible de les mettre à contribution. Mais le fait est qu'il est très difficile pour un gouvernement pris isolément de réguler ou d'imposer les patrimoines et leurs revenus. C'est d'abord cette perte de souveraineté démocratique qui explique le sentiment de dépossession qui agite aujourd'hui les pays riches, et singulièrement les pays européens, dont le territoire est morcelé en petits États concurrents les uns des autres pour attirer les capitaux, ce qui aggrave les processus à l'œuvre. La très forte progression des positions financières brutes entre pays, chacun est de plus en plus possédé par ses voisins, analysée dans le chapitre 5, participe également de cette évolution et de cette impuissance. Nous verrons dans la quatrième partie de ce livre dans quelle mesure un impôt mondial sur le capital, ou à défaut européen, peut constituer un outil adapté pour dépasser ces contradictions et quelles autres réponses sont susceptibles d'être apportées par les gouvernements qui auront à affronter cette réalité. Précisons d'emblée que la divergence oligarchique est non seulement plus probable que la divergence internationale, mais également beaucoup plus difficile à combattre, car elle demande un haut degré de coordination internationale entre pays qui sont ordinairement habitués à se concurrencer. La sécession patrimoniale tend d'ailleurs à effacer la notion même de nationalité, puisque les plus fortunés peuvent, dans une certaine mesure, partir avec leur patrimoine et changer de nationalité, de façon à effacer toute trace avec la communauté d'origine. Seule une réponse coordonnée à un niveau régional relativement large permet de dépasser cette difficulté. Les pays riches sont-ils si pauvres ? Il faut également souligner que la dissimulation d'une partie importante des actifs financiers mondiaux dans les paradis fiscaux limite d'ores et déjà de façon importante notre capacité à analyser la géographie globale des patrimoines. Si l'on s'en tient aux données officielles publiées par les administrations statistiques des différents pays et rassemblées par les organisations internationales, à commencer par le Fonds monétaire international, il semblerait que la position patrimoniale des pays riches vis-à-vis du reste du monde soit négative. Comme nous l'avons vu dans la deuxième partie, le Japon et l'Allemagne ont des positions positives assez importantes vis-à-vis du reste du monde, c'est-à-dire qu'ils possèdent au travers de leurs ménages, entreprises et gouvernements beaucoup plus d'actifs dans le reste du monde que le reste du monde n'en possède chez eux, ce qui traduit le fait qu'ils ont accumulé de forts excédents commerciaux au cours des dernières décennies. Mais les États-Unis ont une position négative, et la plupart des pays européens autres que l'Allemagne ont une position proche de zéro ou négative. Au total, quand on additionne l'ensemble des pays riches, on parvient à une position légèrement négative, équivalente à environ moins 4% du PIB mondial au début des années 2010, alors qu'elle était proche de zéro au milieu des années 1980, comme l'indique le graphique 12.6. Il faut toutefois insister sur le fait qu'il s'agit d'une très légère position négative. Cela représente tout juste 1% du patrimoine mondial. Dans tous les cas, comme nous l'avons déjà amplement noté, nous vivons dans une période historique où les positions internationales sont relativement équilibrées, tout du moins par comparaison à la période coloniale, où la position positive des pays riches vis-à-vis du reste du monde était incomparablement plus forte. Toujours est-il que cette position officielle, légèrement négative, devrait en principe avoir pour contrepartie une position positive équivalente pour le reste du monde. Autrement dit, les pays pauvres devraient posséder plus d'actifs dans les pays riches que ces derniers n'en possèdent chez eux, avec un écart de l'ordre de 4% du PIB mondial, environ 1% du patrimoine mondial, en leur faveur. En réalité, il n'en est rien. Si l'on additionne l'ensemble des statistiques financières pour les différents pays du monde, on obtient la conclusion que les pays pauvres ont également une position négative et que la planète dans son ensemble a une position très nettement négative. Autrement dit, nous serions possédés par la planète Mars. Il s'agit d'une anomalie statistique relativement ancienne, mais dont les organisations internationales ont constaté l'aggravation au fil des années. La balance des paiements est régulièrement négative au niveau mondial. Plus d'argent sort des pays qu'il n'en rentre dans les autres pays, ce qui est en principe impossible, sans pouvoir véritablement l'expliquer. Il faut souligner en particulier que ces statistiques financières et ces balances de paiement concernent en principe l'ensemble des territoires de la planète. En particulier, les banques situées dans les paradis fiscaux ont théoriquement l'obligation de transmettre leurs comptes aux institutions internationales, tout du moins de façon globale, et que plusieurs types de biais et d'erreurs de mesure peuvent a priori expliquer cette anomalie. En confrontant l'ensemble des sources disponibles et en exploitant des données bancaires suisses inexploitées à ce jour, Gabriel Zucman a pu montrer que l'explication la plus plausible pour cet écart est l'existence d'une masse importante d'actifs financiers non enregistrés détenus par les ménages dans les paradis fiscaux. Son estimation, prudente, est que cette masse représente l'équivalent de près de 10% du PIB mondial. Certaines estimations proposées par des organisations non gouvernementales concluent à des masses encore plus importantes, jusqu'à deux ou trois fois plus fortes. dans l'état actuel des sources disponibles, l'estimation de Zucman me semble légèrement plus réaliste. Mais il est bien évident que ces estimations sont par nature incertaines et il est possible qu'il s'agisse d'une borne inférieure. En tout état de cause, le fait important est que cette borne inférieure est déjà extrêmement élevée. En particulier, elle est plus de 2 fois plus forte que la position négative officielle de l'ensemble des pays riches. Voir graphique 12.6. Or, tout indique que la très grande majorité de ces actifs financiers, localisés dans les paradis fiscaux, est détenue par des résidents des pays riches, au moins les 3/4. La conclusion est évidente, la position patrimoniale des pays riches vis-à-vis du reste du monde est en réalité positive. Les pays riches possèdent en moyenne les pays pauvres, et non l'inverse, ce qui, dans le fond, n'est pas vraiment étonnant. Mais cette évidence est masquée par le fait que les habitants les plus fortunés des pays riches dissimulent une partie de leurs actifs dans des paradis fiscaux. Ce résultat implique en particulier que la très forte hausse des patrimoines privés, en proportion du revenu national, observée dans les pays riches au cours des dernières décennies, et que nous avons analysée dans la deuxième partie de ce livre, est en réalité un peu plus forte encore que ce que nous avons pu mesurer à partir des comptes officiels. Il en va de même pour la tendance à la hausse de la part des hauts patrimoines dans le patrimoine total. De plus, et surtout, cela démontre les difficultés posées par l'enregistrement des actifs dans le capitalisme globalisé de ce début de XXIe siècle, qui vont jusqu'à brouiller notre perception de la géographie élémentaire de la fortune.